enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais vous poser une question qui n'est pas directement biblique. Est-ce que vous aimez le chocolat noir? Oui? Le noir, noir, tout noir? Noir à combien de pourcents? 70? Qui dit mieux? Bon, j'ai vu l'autre fois qu'il y en avait à 99%. Alors, ce qui m'a étonné, c'était justement le coût des 99%, quoi. Je me suis dit, bah, pourquoi ils n'ont pas mis 100%? Pourquoi le fabricant s'est donné la peine de rajouter 1% de je sais pas quoi d'autre? Je sais pas, d'un substitut de mayonnaise, je sais pas quoi, un truc avec. Et alors un jour, j'ai posé la question à quelqu'un, je dis, mais pourquoi 99%? Alors il m'a dit, en fait, c'est du 100%, quoi. Mais comme le fabricant sait que forcément, même s'il annonce 100%, il peut rester dedans, au moment de la fabrication, 2-3 molécules d'autres choses qui se sont mélangées là par hasard parce que ça restait, je sais pas, au fond de la casserole ou quelque chose. Alors, s'il annonce 100%, après, quelqu'un pourrait lui faire des réclamations en faisant une analyse et en trouvant qu'il y a quelque chose qui va pas. Alors, comme ça, il dit 99 et il est bon, voyez. Et ce qui m'intéresse, c'est cette idée du mélange. C'est très difficile, en fait. C'est très, très difficile d'être sûr qu'on a quelque chose de tout à fait pur. C'est très difficile. Même en chimie, on voit que la pureté de quoi que ce soit doit toujours être annoncée avec un pourcentage. C'est impossible sur la Terre. C'est impossible de pouvoir présenter quelque chose en disant de façon absolue que c'est absolument pur. C'est une impossibilité. Ça sera toujours pur à, alors peut-être c'est à 99,99%, mais pur, pur, pur de chez pur, tout à fait pur, c'est pas possible. Ça n'existe pas. Même quand vous achetez de l'eau, alors ça dépend, vous voyez, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Si c'est de l'eau pour boire, on dit, ben, elle est bon, elle est transparente, ben, c'est de l'eau pure, ça va. Bon, si on veut la mettre dans un fer à repasser, on va la prendre déminéralisée. Donc, elle est plus pure que l'autre qui était pure. Mais en fait, elle n'est pas pure. Parce qu'il reste quand même encore des trucs dedans. Alors, les chimistes peuvent encore, après, affiner. Mais de toute façon, les instruments avec lesquels on va affiner, eux-mêmes vont incorporer aussi des impuretés. Tout ça pour dire que le seul qui est capable de nous parler vraiment de ce qui est pur, c'est Dieu. Dieu seul est capable de produire quelque chose de pur. Pourquoi ? Parce que lui-même est pur. Et parce que nous sommes impurs, nous ne pouvons que faire, pratiquer, produire quelque chose qui nous ressemble. Parce que les chiens ne font pas des chats, quoi. Nous sommes réduits aux effets de ce qu'est notre propre identité. Et quand une des définitions de Dieu, vous le savez, c'est que Dieu est saint. La Bible nous dit que Dieu est saint. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est saint? C'est un mot, bien sûr, et c'est quelquefois un mot qui, comment je pourrais dire, c'est presque un mot qui nous fait un peu peur. Et profondément, on a beaucoup de mal à définir ce que c'est saint. Et on risque souvent de le définir seulement par son contraire. C'est quelque chose qui n'est pas souillé, qui n'est pas mélangé, etc. C'est comme le mot pur. Hein, quelque chose qui est pur, c'est quelque chose qui ne contient rien de mal, rien de mauvais, ou en tout cas pas de mélange, quoi. Et Dieu lui-même ne contient rien de mauvais et même pas de mélange avec quelque chose de neutre. Hein. Tout ce que Dieu est saint. Tout ce que Dieu fait est saint. Tout ce que Dieu pense est saint. Alors, nous, avec la nature telle que nous sommes, telle que nous pensons, telle que nous ressentons, etc., c'est quelque chose qui est tellement, en fait, qui nous est tellement antinaturel que ça nous rend la perception de ce qui est saint, ça nous en donne une perception difficile. Bon, intellectuellement, on peut réfléchir, on essaye, mais quand même, c'est quelque chose, c'est une approche qui n'est pas très naturelle. Et je crois qu'on a vraiment besoin, on priera pour ça tout à l'heure, je crois que nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous révèle ce que ça veut dire. On a besoin de Dieu pour connaître Dieu. On a besoin du Dieu Saint pour que le Dieu Saint nous explique, nous montre, nous révèle, nous apprenne ce que ça veut dire, le fait qu'il est saint. On peut lire un passage dans Ésaïe. Alors j'étais content que Philippe nous lise déjà quelque chose dans Ésaïe. Moi je me suis arrêté juste un tout petit peu avant. Ésaïe 6. Ésaïe 6, c'est un passage d'Ésaïe qui est bien bien connu, un passage glorieux, un passage formidable, où le prophète a fait une expérience qu'il a certainement marqué pour le reste de sa vie. Voilà, vous avez trouvé, c'est dans Ésaïe, chapitre 6, verset 1. On y est. Et il dit ceci, que l'année de la mort du roi Ozias, il a dit « J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il y avait des séraphins qui se tenaient au-dessus de lui. Chacun avait 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Et ils criaient l'un à l'autre et ils disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et quand il disait ça, les portes ont été ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. La maison s'est remplie de fumée. Alors Ésaïe a dit « Malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais un des séraphins a volé vers moi. Il tenait à la main une pierre brûlante qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en a touché ma bouche et il a dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Ton péché est expié. » Alors, j'ai entendu la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi ?» Alors j'ai dit « Hé, je suis là, envoie-moi. » Amen. Si les séraphins disaient « Saint, Saint, Saint », souvent on a dit que c'est parce que c'est le Dieu trois fois saint, mais on pourrait aussi logiquement dire que c'est le Dieu sept fois saint ou mille fois saint ou le nombre que vous voulez. Hein. C'est simplement cette répétition, c'est pas pour s'arrêter à trois, c'est pour exprimer le fait que c'était que c'est ce qui venait de leur cœur chez ces séraphins. C'était l'expression de ce qu'ils avaient, de ce qui bouillonnait au-dedans d'eux. Et ils ne l'ont pas dit trois fois en se disant, ça y est, on a fait notre devoir. Mais c'est ce qu'ils font dans l'éternité. Dans l'éternité, ils proclament que Dieu est saint. Ils proclament qu'il est magnifique. Et vous voyez, une réaction, je ne dis pas curieuse, mais qui peut peut-être surprendre au début quand on lit un texte comme ça, c'est de voir la réaction du prophète Ésaïe. Pourtant, Ésaïe était quelqu'un qui connaissait Dieu. La preuve, c'est qu'il était prophète quand même, hein. Donc, il annonçait les choses de Dieu. Il avait un rapport avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Dieu lui parlait et il pouvait parler de la part de Dieu. Et quand il a eu cette vision, alors sa conclusion, d'abord, il a dit « Malheur à moi ». Et si vous reprenez dans les pages précédentes, on va pas le faire, ça serait un petit peu long, mais dans les quelques chapitres précédents, il a prononcé ce mot de malheur, il l'a prononcé plusieurs autres fois aussi, Ésaïe. Parce que il le prononçait à propos de tous les gens du peuple qui étaient dans le péché, qui étaient dans toutes sortes. Et il a dit, malheur à ceux qui font ceci. Malheur à ceux qui tirent les cordes, l'iniquité avec les cordes du vice. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui ajoute champ à champ et maison à maison. Malheur au peuple qui t'a abandonné. Malheur à ceci, malheur à cela. 9 fois il a dit malheur. Et puis quand il a vu Dieu, quand il a eu cette révélation, alors la 10e fois, il a dit malheur à moi. Parce que ça ne remet pas en cause le fait qu'il était réellement un homme intègre. C'était vraiment un homme intègre, vraiment, vraiment un homme de Dieu, un homme formidable. Mais, comme je vous disais tout à l'heure, c'est comme dans le chocolat. Même intègre, chez lui aussi, il y avait encore un petit peu des impuretés. Chez lui aussi, il y avait quelque chose qui n'était pas dans la nature de Dieu. Chez lui aussi, il y avait encore les résultats de la chair. Simplement, peut-être que c'était moins visible, mais c'était dedans quand même. Alors, les péchés de tout ce qu'il voyait autour de lui, c'était tellement évident, c'était tellement criant, c'était tellement horrible. Et puis, il parlait de la part de Dieu. Mais quand la lumière de Dieu est venu vraiment sur lui, quand cette lumière a commencé à fouiller au-dedans de lui, quand il a été mis en pleine lumière, alors il n'y avait plus rien d'obscur qui pouvait s'esquiver. Et à ce moment-là, il s'est découvert lui-même avec ce qui restait. Et peut-être ce 1% qui restait, ce 1% lui a fait comprendre qu'il était par lui-même, qu'il n'était même pas digne de rester dans la présence de Dieu. Et c'est avec vérité qu'il a dit « Malheur à moi !» Parce qu'il se voyait tel qu'il était. Vous savez, si quelque chose est impur, c'est impur. Que ce soit impur à tant de degrés ou à tant, c'est impur. Parce que Dieu est pur. Dieu ne peut pas se satisfaire de quelque chose qui est impur. C'est pourquoi Ésaïe s'est rendu compte que même si jusque-là, il avait fait tout son possible, il avait été intègre, il avait fait le mieux possible, il avait veillé à son comportement, il s'était engagé, il avait servi Dieu, il pouvait peut-être qu'il disait « je peux pas faire mieux ». Et quand il s'est aperçu qu'il pouvait pas faire mieux, il restait encore un problème. Mais Dieu ne le lui a pas révélé pour qu'il soit dans la difficulté. Dieu lui a révélé pour lui montrer comment lui, Dieu, était capable de changer ça. Et c'est pour ça que le séraphin est venu et que le séraphin a pris quelque chose auquel par lui-même Ésaïe n'avait pas accès. Le séraphin a pris sur l'autel de Dieu, il a pris cette pierre ardente et il l'a purifiée. Il l'a purifiée. Voilà un exemple où nous voyons que la connaissance de la sainteté de Dieu crée une sorte de crainte. Ésaïe il s'est écroulé, et plusieurs fois on voit d'autres prophètes qui ont vécu des choses tout à fait comparables. Lorsque Jean, dans l'Apocalypse, lorsque Jean a vu apparaître devant lui Jésus dans la gloire, il a dit qu'il est tombé par terre, il était pas simplement effrayé, il était comme mort. Et cette sainteté de Dieu nous effraie parce que nous savons naturellement qu'elle est contraire à notre nature, qu'elle est contraire à ce que nous sommes. Mais ce que Dieu veut, c'est nous rendre semblables à lui. La grandeur de Dieu, c'est que Dieu est bien plus conscient que nous de ce que nous ne sommes et de ce que nous ne sommes pas. Quelquefois, j'allais dire, on est quand même des fois un peu bêtes. Hein. Il y a des fois, on plaide avec Dieu comme si on essayait de lui faire croire qu'on n'est pas tout à fait aussi mauvais qu'on a l'air, quoi. Hein. Mais Dieu sait bien mieux que nous ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas. S'il y en a un qui est convaincu de ce que nous sommes pécheurs, lui l'est bien plus à notre sujet que nous-mêmes. David avait compris ça quand il a dit « Pardonne-moi aussi les péchés que j'ignore. » Vous voyez ? Il se rendait compte que même quand il avait tout confessé, il se doutait bien qu'il devait en avoir oublié encore quelques-uns, quoi. Alors il a dit, pour être sûr, hein, il a dit « Pardonne-moi aussi ceux que j'ignore. » Mais Dieu aime des prières comme ça. Parce que ce sont des prières lucides. Ce sont des prières de connaissance. Et voyez, je crois que nous avons besoin de connaître que nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint. Nous servons un Dieu saint. Même si la tradition nous a amenés à tutoyer Dieu, et peut-être que c'est normal parce qu'on tutoie bien son papa, ça c'est normal. Mais Dieu ne sera jamais quand même notre copain. Dieu n'est pas notre camarade. Et même être l'ami de Jésus, ce n'est pas simplement parce qu'un jour, on lui a fait la grâce et l'honneur de lever la main à la fin d'un appel. Ce n'est pas pour ça encore qu'on est l'ami de Jésus. Jésus dit à ses apôtres, aux 12, enfin aux 11, puisque Judas était sorti, il leur dit « Ce soir, je vous appelle mes amis ». Jusqu'à maintenant, il a dit « Jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas appelé mes amis ». Ce soir, je vous appelle mes amis. Et ils étaient apôtres depuis déjà un petit moment quand même. Hein. Ils étaient apôtres, mais peut-être pas encore amis. Vous voyez, on peut être dans une fonction, on peut servir, et même servir avec des résultats. Et ça ne prouve rien quant à la qualité de la relation qu'on a avec Dieu. Ça c'est quelquefois un petit peu déboussolant. Hein. Je dis, ouais, avec tout ce que j'ai fait, vous savez... Ce qu'on a fait, comme Esaïe le dira un petit peu plus loin, il dit ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à travers nous. On peut même pas se glorifier d'avoir fait quelque chose. Si c'est vraiment profitable, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait à travers nous. On peut presque dire que Dieu l'a fait malgré nous, des fois. Hein. Dieu est saint. Et je crois que j'aimerais vraiment ce soir qu'on puisse demander de tout notre cœur au Seigneur, qu'il nous révèle qu'il est ce Dieu saint. Parce que c'est quelque chose qui doit venir, hein, qui vient de lui dans notre cœur, et que nous ne pouvons pas fabriquer en nous-mêmes. Beaucoup de... Vous savez, dans l'Apocalypse, je vous donne juste quelques références, mais on ne va pas tout lire. Vous avez un petit peu la même chose dans Apocalypse 4, 8, et au chapitre 15, verset 4, il dit « Seul tu es saint. Seul tu es saint. » Et Jean ajoute « Qui ne te craindrait ?» Vous voyez, de nouveau, cette notion de la sainteté de Dieu amène une sorte de crainte. Mais je dis c'est une sorte, parce que ce n'est pas une crainte comme une angoisse, comme une frayeur. Certainement plusieurs d'entre nous, avant de connaître vraiment Dieu, avaient certainement peur de Dieu. Il y a des gens qui avaient peur de Dieu. Il y a même des gens qui étaient très religieux, justement parce qu'ils avaient peur de Dieu. Et plus ils avaient peur de Dieu, plus ils essayaient, hein, de se concilier ses bonnes grâces, mais avec la conviction intérieure qu'ils n'en avaient jamais fait assez, quoi, de toute façon. Alors la crainte ne faisait qu'augmenter tout le temps. Mais c'est une sorte de crainte qui conduit en fait plutôt à la déférence, hein, au respect, à la soumission. Mais avec une notion d'amour. Hein. Dans Exode 15, 11, il dit, on parle de l'Éternel en disant, magnifique en sainteté. On le chante souvent, hein. Magnifique en sainteté. Ça, j'aime ce verset. Magnifique en sainteté. La sainteté de Dieu, c'est beau. C'est magnifique. C'est pas terrifiant, c'est magnifique, c'est admirable. Vous savez, entre l'adoration et l'admiration, il y a beaucoup de communs. Mais l'adoration, c'est plus que l'admiration. Parce que on peut admirer quelque chose sans pour autant se sentir concerné avec, sans pour autant être impliqué. Tandis que dans l'adoration, il y a l'admiration, mais en plus, on devient un avec celui qu'on adore. Ça va beaucoup plus loin, quoi. Hein? On ne peut pas adorer quelque chose qu'on n'aime pas. Mais par contre, on peut admirer quelque chose et dire, oh, c'est vraiment admirable, mais enfin, c'est bien chez les autres, moi j'en voudrais pas chez moi. C'est digne d'admiration. Mais Dieu, c'est pas pareil. Le Dieu saint, on l'adore et on l'admire. Jacques, dans Jacques 1,17, il l'a appelé le Père des Lumières. Et il dit qu'il y a chez lui ni changement, ni ombre de variation. Vous voyez, ça veut dire, je reviens à mon histoire de pureté, ça veut dire qu'il n'y a pas chez Dieu, il n'y a pas de mélange. Pas de changement. Et pas d'ombre, pas l'ombre d'une variation. Bon, déjà, pas de variation, c'est pas mal. Mais même pas l'ombre d'une variation, alors c'est vraiment, ça ne varie pas du tout. Hein. Dieu est le même. Il n'est pas comme nous, il n'est pas changeant. Nous, nous sommes changeants parce que nous sommes mélangés. Mais Dieu n'est pas mélangé. Dieu est saint. Il faut que nous connaissions cette sainteté et cette crainte de Dieu. Il dit aussi, alors un verset que j'aime beaucoup dans Exode 31,13, il dit, il se présente au peuple en disant, « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Et ça, c'est extraordinaire, parce que l'Ancien Testament, quelquefois, certains lecteurs de la Bible pensent que l'Ancien Testament nous présente un Dieu dur, un Dieu sévère, le Dieu de la loi. Donc la loi, ça veut dire un Dieu comme un contrôleur. Mais le principe de Dieu, même à travers la loi, c'est pas de mettre des barrières, c'est de nous amener à lui. C'est de nous amener à le considérer lui pour nous devenir comme lui. C'est pourquoi Dieu se présente même dans l'Ancien Testament en disant « Je suis l'Éternel qui vous sanctifie ». Et ça, c'est très curieux. Parce que dans aucune religion du monde, dans toutes les fausses religions du monde, il n'y en a aucune où le Dieu se présente en disant « je veux que vous deveniez ce que je suis ». Dans aucune des religions, des fausses religions, aucune des idoles ne dit « Je désire que tu deviennes comme je suis pour que nous soyons vraiment complètement ensemble ». Toutes les idoles disent « Attention, je suis en haut, toi t'es en bas, fais gaffe hein ». Enfin, bon, des fois c'est dit plus... Hein, des fois c'est présenté mieux que ça, quoi. Mais ça revient au même. Tandis que notre Dieu dit « Je suis saint ». Alors comme je suis saint, vous serez saint aussi. Et c'est pas « Attention, vous serez saint, hein ?» C'est pas ça. C'est parce que je suis saint. Sois saint aussi. L'idée qu'il y a dans cet appel, c'est pas « Fais attention parce que tu vas voir ce qui va t'arriver derrière les oreilles. » C'est pas ça. L'idée, c'est que « Sois comme moi pour qu'il n'y ait rien qui se mette entre nous. Deviens comme moi pour qu'on puisse être tout à fait ensemble. » Tout à fait uni, tout à fait bien, qu'il n'y ait rien qui nous sépare, qu'il n'y ait rien qui nous divise. C'est pour ça que Dieu dit, soyez saints. Vous voyez, on a tellement perçu la sanctification souvent à l'envers. On a seulement perçu en général l'aspect négatif de la sanctification, c'est-à-dire dans la sanctification, on a vu seulement la liste de tous les « tu feras pas ». Vous voyez ? Dans la sanctification, tu toucheras pas à ça, tu feras pas ci, tu feras pas ça, touche pas ça, va pas ici, va pas là, etc. Alors, ça c'est la sanctification par... Et je dis pas que ces recommandations sont pas justes, mais si on perçoit la sanctification seulement à travers ça, c'est seulement éviter le mal. Mais éviter le mal, c'est pas dynamique. C'est pas ça que Dieu nous propose. Sinon, ça s'appellerait pas la sanctification, ça s'appellerait l'anti-mal. Mais Dieu nous propose pas seulement de fuir le mal, il nous propose de chercher le bien, et le bien, c'est lui. Le but de la sanctification, c'est de chercher Dieu. C'est pas simplement de fuir le diable, mais c'est de chercher Dieu. C'est pour ça qu'un verset, par exemple, quand Jésus dit « Je me sanctifie moi-même pour eux » dans l'évangile de Jean. Si on comprend la sanctification seulement comme la fuite du mal, ce verset devient un mystère incompréhensible. Comment Jésus pourrait dire « Je me sanctifie moi-même pour eux » Mais il était déjà saint. De quel péché, de quelle faute, de quelle faiblesse aurait-il eu besoin, Jésus, de se débarrasser? Alors, mais s'il dit « Je me sanctifie », c'est-à-dire qu'étant saint, il continue de chercher celui qui est saint. Parce qu'il a dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et c'était possible de façon absolue, parce que Dieu est absolument saint, et parce que Jésus était absolument saint. Donc il a pu dire « Le Père et moi, nous sommes un ». Et c'est dans ce sens qu'il dit « Je me sanctifie moi-même ». C'est-à-dire, je continue de chercher, de garder, de tendre, hein, et de n'avoir de relation que avec ce qui est saint. C'est dans ce sens-là. Et c'est pour ça que la sanctification, je crois, nous intéressera davantage les uns et les autres, comme une démarche, si nous le comprenons, comme une démarche positive. Il s'agit pas simplement de mettre des barrières, comme sur l'autoroute, des rails de sécurité. La sanctification, c'est pas simplement le truc qui nous empêche de tomber dans le trou. La sanctification, c'est la démarche qui nous fait rechercher celui qui est saint. Parce que un seul est saint. Toi seul, tu es saint. Amen. Et c'est pour ça que la sanctification, j'allais dire, si on le comprend comme ça, elle devient attractive pour nous. C'est pas simplement un combat d'arrière-garde, mais c'est le but de chercher Dieu pour Dieu. Et bien sûr, elle entraîne une lutte contre le péché, évidemment. Bien sûr, parce que le péché, quel est le rôle principal du péché? C'est de se mettre entre Dieu et nous. Le but du péché, c'est ça. C'est de nous couper de Dieu. C'est de faire un obstacle. C'est de faire une barrière. Alors, pour chercher Dieu, c'est sûr qu'il nous faut lutter contre le péché. Mais comprenons bien que la vraie démarche, c'est pas d'abord de fuir le péché. La vraie démarche, c'est de chercher celui qui est saint. Alors, parce que nous cherchons celui qui est saint, nous allons lutter contre le péché. D'accord? C'est ça la sanctification. Sanctification, ça vient du mot saint. C'est rechercher ce qui est saint. Comme dit le Nouveau Testament. Hein, que tout ce qui est honorable, ce qui est vertueux, et tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est comme Dieu, que ce soit ça qui vous attire. Hein. Ah Seigneur, nous avons vraiment besoin que le Saint-Esprit nous fasse rentrer dans ces choses-là. Voyez, c'est à cause de ça qu'après il y a beaucoup de versets qui nous donne des exhortations sur ce sujet. J'ai noté juste quelques-uns, je vous les lis comme ça rapidement. Vous voyez, le Lévitique 19:2 dit par exemple « Soyez saints, car je suis saint, dit Dieu. » Donc voilà un impératif, mais qui est motivé par Dieu lui-même. Éphésiens 1:4 dit que nous avons été élus pour que nous soyons saints. C'est-à-dire que Dieu nous a élus pour nous approcher de lui. C'est pour ça qu'on comprend bien pourquoi quelquefois Dieu nous semble quelquefois exigeant. Quand on est... Bon, allez, on est entre nous et puis on le répétera à personne. Mais, comme ça, juste entre nous. Vous n'avez jamais trouvé que Dieu est un peu exigeant quand même? Hein? Il y en a qui trouvent que Dieu est un peu exigeant. Ils disent quand même, il nous demande beaucoup. Il nous demande beaucoup. Il devrait quand même savoir comment on est. Il devrait quand même savoir que c'est difficile pour nous. Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu nous offre tout. C'est très différent. Pourquoi est-ce que Dieu nous demande beaucoup? Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu nous dit simplement, je désire qu'il n'y ait aucun obstacle entre toi et moi, parce que je veux être totalement avec toi. Donc c'est Dieu qui s'offre à nous. Il nous recommande simplement de rester sur la voie où rien ne nous empêcherait de le recevoir complètement. Dieu n'est pas exigeant. C'est nous qui sommes bêtes de discuter ce programme. Parce que c'est le seul vrai programme d'épanouissement. Il y a beaucoup de programmes d'épanouissement. Beaucoup de programmes de réalisation de soi, etc. Et il y a des tas de très bonnes choses, des choses légitimes. Tout ça, c'est tout bon. Mais quand même, très fondamentalement, l'épanouissement de l'homme total, c'est de rencontrer Dieu. Parce que nous avons été faits par lui et pour lui. Et toute autre voie est une voie sans issue. Mais plus nous rencontrons Dieu, plus nous sommes en communion avec Dieu, alors plus nous sommes réalisés. Et Dieu le sait, c'est pour ça qu'il nous dit de façon très concrète, il dit, Jésus dira d'une autre façon dans Matthieu 5 à 7 par exemple, soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Et c'est vrai que si on le comprend par la chair, si on le comprend avec l'intellect, on dit, voilà, alors nous demander d'être parfait, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors que Jésus est en train de nous montrer la voie pour que nous ayons tout. La voie dans laquelle nous recevons la nature totalement de Dieu. Et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas nous lasser de demeurer sur ce chemin-là. Il ne faut pas nous lasser parce que des fois on se lasse. Parce que des fois... Et ce des fois revient quelques fois tous les jours. C'est difficile. On a envie de s'arrêter un peu. On dit bon, allez, j'ai assez lutté dans ce domaine. Je me suis assez bagarré. Je suis arrivé quand même à un certain niveau quand même. Hein, j'ai déjà quand même gravi bien des échelons. Il y en a qui sont bien plus bas que moi. Hein. Oh oh. Et ça, c'est le 1% qui gâte le reste. Bon, je voudrais pas être long. On va prier. On va demander au Seigneur que vraiment il nous révèle qu'il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que nous avons tellement de mal à pouvoir définir une chose pareille? Pourquoi ça nous semble si inaccessible? Mais si le Saint-Esprit nous montre, comme Ésaïe, si nous pouvons voir un tout petit peu dans notre cœur, par la foi, je dis pas des révélations spectaculaires, je veux dire extérieures, mais quelque chose en nous-mêmes qui nous montre la sainteté de Dieu. Oh, on va demander au Seigneur ensemble. Seigneur, je voudrais te prier pour que nous puissions connaître ta sainteté. Seigneur, comme Moïse avait prié, il avait dit, Seigneur, quel est ton nom? Et nous te demandons ce soir de nous révéler ton identité, de nous révéler ta nature, de te révéler toi, le Saint. Le Saint. Nous voulons te voir glorifié. Oh Seigneur, dans ton temple, nous voulons que, Seigneur, peut-être nous ne pouvons pas te voir en entier. Peut-être nous ne pouvons pas te voir tout entier. Mais comme Ésaïe a vu simplement que même seulement les pans de ton manteau suffisaient à remplir le temple. Seigneur, montre-nous un petit bout du manteau.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.